France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7.
Quel visage auront nos villes demain? Faut-il repenser l'existant ou construire? Quelles sont les urgences pour les architectes aujourd'hui? Quel rôle joue le réchauffement climatique dans la construction de bâtiments? Quelle place pour l'homme? Voici quelques-unes des questions que nous avions envie de poser en ce début d'année aux premiers intéressés, les architectes. Bonjour Nicolas Delon.
Bonjour.
Nicolas Delon, vous êtes donc architecte, vous êtes l'un des fondateurs du collectif Encore Heureux et vous avez aussi été au passage l'un des commissaires du pavillon français lors de la Biennale d'architecture de Venise en 2018. Comment vous l'imaginez la ville de demain?
En fait, la question de la ville et de l'architecture, c'est aussi imaginer la société de demain. En fait, on peut pas déconnecter nos villes, nos architectures des vies que nous avons envie de mener. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on arrive à la fois au bout d'un système de pensée peut-être économique, au bout d'un système de consommation des ressources et des matières. Et donc, la ville telle qu'elle a été pensée depuis une centaine d'années à peu près, doit se réinventer, doit se repenser et doit se partager.
Et comment elle doit se repenser alors?
Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on a ce qu'on appelle les polycrises. Nous, en tant qu'architectes, on en identifie trois principales. La première, c'est la crise climatique. C'est celle qui doit nous obséder de manière collective en tant qu'architecte. Si j'étais agriculteur, elle devrait aussi m'obséder en tant qu'agriculteur. Mais il se trouve que nous, on travaille dans l'architecture. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'épuisement des ressources pour construire. Aujourd'hui, on a de moins en moins de matériaux pour construire. Le sable, par exemple, est une ressource en voie de disparition. On est en train de gratter au fond des océans les derniers mètres cubes de sable pour faire du béton. Une fois qu'on a fait du béton, on peut plus revenir en arrière. Donc ça, on doit avoir un nouveau rapport à ces ressources. La troisième crise, c'est la crise politique. La crise sociale que l'on perçoit, dont on voit tout un tas d'émergences, qui est ce lien entre des récits de société et la façon dont tout un chacun nous vivons notre quotidien, entre la fin du monde et la fin du mois, comme d'autres l'ont dit, mais vraiment sur ce rapport, qu'est-ce qui fait sens commun? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent vivre, qu'on se sent habité, qu'on se sent habitant? C'est ça aujourd'hui qui nous intéresse.
Et ça veut dire quelle place pour l'homme là-dedans?
Si vous voulez, aujourd'hui, la ville telle qu'elle est faite et une grande partie de l'architecture, on a le sentiment qu'elle s'est éloignée de sa destination première qui était d'accueillir. Accueillir la personne d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit, l'accueillir dans un cadre confortable, sécure dans son sens de premier, c'est-à-dire être au chaud. Aujourd'hui, on sait que le mal logement, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont dans des situations de mal logement. La Fondation Abbé Pierre fait tous les ans un rapport redoutable de justesse et de précision sur cet état du logement en France. Et donc, si vous voulez, on a le sentiment que tous ces facteurs-là, qui sont des facteurs plus sensibles que des grands chiffres et des grands tableaux Excel qui aujourd'hui sont l'alpha et l'oméga de la ville telle qu'elle se construit, doivent être reconsidérés, repensés.
Et ça veut dire qu'il faut non pas construire, mais rénover le déjà bâti?
Alors, il faut passer de l'intention à l'attention. Il faut d'abord regarder ce qui est là. Et ce qui est là, c'est déjà des bâtiments qui sont parfois pas occupés. Il y a des milliers de mètres carrés.
À ce point-là?
À ce point-là, c'est en Ile-de-France même, hein, des milliers de mètres carrés de bureaux qui sont aujourd'hui vides. Moi, je viens d'Aveyron et de Villefranche-de-Rouergue où il y a des bâtiments, des quartiers entiers qui sont quasiment vides parce que, par exemple, le centre-ville, c'est totalement dépeuplé et c'est reporté sur des périphéries avec tout un tas de problèmes aussi de déplacement qui aujourd'hui nous reviennent en pleine figure, mais là, si vous voulez, les quelques centimes d'augmentation du prix du gasoil ou en tout cas de l'essence au regard des épuisements du pétrole qui arrivent dans quelques décennies, mais c'est inimaginable. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus de pétrole, le gouvernement ne pourra pas décider de ne pas augmenter la taxe, il n'y aura plus du tout de ressources. Donc vous imaginez un peu ces signaux avant-coureurs qu'il faut que nous entendions collectivement.
Mais la place de l'architecte là-dedans?
Alors, déjà, le métier d'architecte, il y a une grande diversité d'applications. Nous pensons que, de par notre formation, nous sommes des spécialistes ou des professionnels de la complexité. C'est-à-dire que faire un bâtiment, aujourd'hui, c'est très compliqué. Aujourd'hui, les crises et la façon d'essayer de sortir par le haut de ces crises-là est aussi une forme de complexité. Et donc, on pense que l'architecte a une capacité de percevoir les potentiels du réel. Ce potentiel du réel, ça peut être un potentiel conjoncturel, ça peut être un potentiel spatial, ça peut être d'imaginer reprendre une ancienne usine et en faire du logement, prendre une tour de bureau et en faire de l'habitat d'urgence parce que c'est l'urgence du moment. Et si vous voulez, tout ça, c'est ce qui nous semble être une nouvelle façon de faire l'architecture, de faire avec et pas juste de faire des dessins sur des papiers comme ça et de construire des tours pour se faire plaisir. En fait, ça, c'est vraiment pour nous une architecture du passé.
Et en même temps, Nicolas Delon, la population augmente.
Absolument.
Donc, si on construit avec le bâti, on a vraiment tout pour cette population qui augmente. On n'a plus besoin d'aller utiliser des terres agricoles.
Si vous voulez, c'est ce défi qu'il faut mettre au centre de la table. La population augmente de 200 000 personnes par jour. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a, à l'échelle mondiale, on a une ville d'un million d'habitants par semaine qu'il faut loger, qu'il faut soigner, qu'il faut éduquer, qu'il faut nourrir. Donc, c'est vrai que ce rapport à l'étalement urbain, à ce qui fait qu'en France, en 7-8 ans, on artificialise l'équivalent d'un département français par l'étalement urbain, par ces zones pavillonnaires qui s'étendent, par ces zones commerciales qui s'étendent. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer. On pourrait décréter, par exemple, que l'on ne touche plus un hectare de terre agricole en France. Ça pourrait être une mesure qui nous forcerait à penser différemment nos façons de vivre, nos façons d'habiter, nos façons de nous déplacer.
Ouais, et là vous avez besoin des pouvoirs publics pour ça.
Et donc on a besoin de convaincre, on a besoin de raconter, on a besoin à la fois de la puissance publique qui doit retrouver son rôle de puissance, mais une puissance publique qui a la puissance que les citoyens lui donnent. Et aujourd'hui on voit que ce défi-là il est immense. Est-ce qu'aujourd'hui la puissance publique est une puissance ou une impuissance ? Nous on a vu dans nos campagnes la fin du chemin de fer, la fin de ces connexions aux métropoles, la mondialisation pour les métropoles elle est fantastique. Mais pour ces départements périphériques, ces zones pavillonnaires, c'est d'une violence sans nom. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive à partager ce constat-là.
Et concrètement, par exemple, sur un logement qu'on réhabilite, on met du logement, comme vous allez faire à Rennes, vous allez faire, je crois que c'est Pasteur, c'est
ça ? À l'hôtel Pasteur, à Rennes. Donc là, l'idée, ça va être de mixer à la fois un programme d'école maternelle, donc une école publique, et dans les étages supérieurs, de faire un hôtel à projet qui va accueillir une grande diversité d'actions de la société civile qui doit avoir des lieux comme ça où se réunir.
Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mixité en fait dans les logements aujourd'hui.
Absolument, il faut qu'il y ait à la fois une mixité dans la façon dont nous habitons les bâtiments, il faut qu'il y ait aussi une réversibilité, parce que si vous voulez, la société change plus vite que les bâtiments. Faire un bâtiment, c'est très long, c'est une dizaine d'années. On voit aussi avec la révolution numérique, on a des changements qui sont d'une vitesse comme jamais nous l'avons vécu. Et donc, nous devons aussi repenser l'architecture sous l'angle de cette évolution possible.
Vous avez évoqué l'idée de ces campements, en tout cas de ces lieux où les Gilets jaunes s'étaient installés, et vous dites le rond-point, c'est le non-lieu absolu. Et en quoi c'est en rapport ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, avec l'architecture ?
En fait, ce qui est très intéressant dans l'objet du rond-point, c'est qu'à la fois c'est un symbole très fort de la politique d'étalement urbain, c'est-à-dire qu'on positionne un rond-point quand on veut connecter quatre routes entre elles, hein, quand il y en a que deux, on en a pas forcément besoin, enfin quand il y en a qu'une, on en a pas besoin. Et donc il y a 40 000 rond-points en France. C'est une image très forte de ces périphéries aussi urbaines et de ces zones commerciales qui sont venues comme ça produire ce que certains appellent la France moche, et il faut dire qu'il y a une certaine violence quand même dans ces espaces-là. Et moi, ce que je trouve assez fort, c'est que ça devient aussi un lieu de qui devient politique, un lieu de l'appropriation. On voit aujourd'hui qu'il y a des ronds-points qui commencent à être habités avec des campements, avec des lieux où les gens se réunissent, où les gens découvrent qu'en fait ils ont besoin de se parler, qu'en fait ils ont le sentiment de faire corps parce qu'ils sont ensemble. Et donc c'est ce non-lieu-là qui nous a intéressés, parce que c'était presque quelque chose que personne n'avait imaginé au regard et qui devient un lieu de l'appropriation. Et ça, c'est passionnant de notre point de vue d'observer ce phénomène et d'essayer de le comprendre, ou en tout cas de les traiter avec beaucoup d'attention. Et dans ce mot attention, il y a tout. En fait, il y a à la fois le regarder, mais le regarder honnêtement.
Merci Nicolas Delon, architecte. Je rappelle que vous êtes un des fondateurs du collectif Encore Heureux. Merci d'avoir été l'invité du 5-7.
Avec plaisir.